7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Chers amis, il est 8h44 et 22 secondes. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans 10 minutes, l'analyse de Rémy Tell où nous reviendrons sur le cas de l'euthanasie de cette jeune Espagnole. Mais tout de suite, nous serons enchantés par la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bah vous avez l'air tout ronchon, mon petit Alexandre.
Bah, j'ai peur de l'attraper. En fait, on pensait tous que c'était simplement un effet de mode, un truc passager, enfin, quelque chose que les gens font et puis qui disparaît. Et puis après, t'as une communauté de fans irréductibles qui reste et ça fait mal à plus de personnes, quoi. Donc. Là, c'est vraiment un véritable virus, Corona, nous, voilà. Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes sont touchées par ça, quoi. Ça devient difficile de plus en plus d'y échapper. Alors, plusieurs solutions à mon sens. D'abord, rétablir le confinement, mettre trois fois plus de normes d'hygiène publique, puis fermer les établissements concernés et interdire les livraisons à domicile.
Ok. C'est quoi cette nouvelle épidémie, Alexandre ? Hein ? Parce que vous n'allez pas faire comme la dernière fois et recommencer avec vos mystères de noix de cajou. De quoi est-ce que vous nous parlez exactement ?
Mais du tastic rousti. Enfin, cette peste bubonique culinaire se répand absolument partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Alors, déjà pendant les municipales, on voyait apparaître une deuxième vague, mais maintenant c'est pire. Il y a un cluster au Parlement européen, regardez.
So this is incredibly tasty.
That's really good.
I feel also incredibly unhealthy. Have you ever eaten crustis, Valerie?
Who are you
actually?
I'm Lucas.
Là, vous avez bien vu, vous avez bien entendu. C'est Valérie Ayer qui se met à faire des vidéos d'influenceuses pour le tastic rousti. Alors moi, à la base, je pensais que ça touchait seulement quelques catégories de la population méditerranéenne, comme la drépanocytose, quoi. Mais là, il y a une nouvelle étude scientifique qui a établi qu'il existait un facteur de corrélation de 0,8 entre la consommation de tastic rousti et l'écoute de rappeurs comme Gazo, Naps et Théodora. Mais maintenant, il y a eu un variant. Tout le monde peut être touché. Alors, je propose de réunir le haut comité scientifique de Macron à nouveau pour faire en sorte que le tastic rousti ne passe pas les frontières franco-belges. Et puis là, on va payer très très cher le manque d'investissement dans les hôpitaux. On aurait déjà dénombré 465 patients en réanimation pour problèmes gastriques. Et puis, ce qu'il faut, c'est un vaccin le plus vite possible. ARN messager ou pas, honnêtement, je m'en fiche. On peut pas se permettre une épidémie de diabète de type 2 dans tout le pays du jour au lendemain.
Mais vous nous racontez n'importe quoi.
Mais pas du
là.
Tout. Quasiment même temps que la sortie de la vidéo de Valérie Ayer, on a eu les nouveaux chiffres de l'obésité en France. Et devinez quoi ? Eh ben, elle est en hausse. Encore une enquête rondement menée, ne me remerciez pas. Allez, donc pour nos auditeurs qui connaîtraient pas bien cette maladie, je vais vous la décrire. En fait, ça consiste en une espèce de poulet avarié immonde qui surplombe un tas de riz. Alors jusque-là, rien de trop grave, mais c'est après que ça se complique. Vous mettez cela dans une demi-barquette de sauce sucrée salée, un mélange de diverses sauces ultra-industrielles évaluées à environ 1450 calories pour 100 grammes. Laissez le tout dans des conditions sanitaires déplorables et vous avez votre tastic rousti. Alors, comme je vous le disais, les conséquences peuvent être très lourdes. Mais même les symptômes les moins graves n'en sont pas moins préoccupants. Oui, alors immédiatement après l'ingestion du tastic rousti, vous ferez face à un pic de glycémie, la prise de 3 kilos sur la balance et vous serez immédiatement pris d'une folle envie de ponctuer toutes vos phrases par « Wallah ».
Ah oui, c'est très grave.
Oui, c'est particulièrement inquiétant. J'espère de tout cœur que les pouvoirs publics traiteront ce sujet avec le sérieux qui s'impose en de pareilles circonstances. Dans l'immédiat, je conseillerais de condamner fermement, de se rendre sur place et de créer un numéro vert au cas où.
Oui, alors autrement, sinon, vous avez manqué le 1er avril et évidemment, c'est pas de bol pour le troublion que vous êtes.
Oui, mais en fait, je me fais plus trop de soucis désormais parce que l'extrême gauche a quand même commis quelques pantalonnades tout à fait désopilantes. Alors là, c'était galéjade sur galéjade, mais ils sont allés un petit peu loin quand même. Hein. Oui, alors faire croire à tout le monde que Raphaël Arnaud allait revenir à l'Assemblée nationale sans s'excuser pour rien, après un entretien hyper complaisant sur Blast dans lequel il dit qu'absolument rien n'est de sa faute et que d'ailleurs, si les fachos meurent lynchés par ses amis antifa, c'est la faute des fachos, non. En vrai, je vois personne pour y croire. Franchement, c'est trop gros, un 1er avril en plus, quoi. Enfin, il croyait qu'on n'allait pas remarquer ou quoi ? Surtout que bon, quand la journaliste l'interroge, la première question de l'entretien, c'est ça.
J'aimerais tout simplement vous demander comment vous allez et qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre prise de parole après des semaines de silence, Raphaël Arnaud.
Et vous voyez, ça m'a fait penser à ça.
Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation.
après 18 ans de vie commune. Vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout.
Merci, ça va.
Oui, non, je sais, pardon. Personne n'a envie d'écouter du Léa Salamé à 8h45 du matin. Pardon pour les auditeurs, croyez pas que ça me fasse plaisir non plus. Mais en vrai, je trouve ça génial. La journaliste de Blast, c'est vraiment Raphaël Arnaud. Vos amis de la jeune garde ont lynché à mort un petit gars de 23 ans qui n'avait rien fait. Parmi les suspects se trouvent trois de vos assistants parlementaires, dont votre proche ami Jacques-Élie Favreau, dont il a été établi par l'enquête qu'il avait dit « butez-le » à propos de Quentin. Vous avez déjà été condamné pour violence volontaire en réunion de votre côté. Vous vous êtes planqué pendant 6 semaines parce que vous connaissiez votre implication de premier plan dans tout ça, mais vous avez l'air tout triste et tout fatigué. Vous nous disiez avant l'émission que vous aviez perdu 3 kilos et que vous faisiez des cauchemars la nuit. Comment ça va, Raphaël Arnaud ? Et tu sais, pendant tout l'entretien, lui, il te répond « C'est la faute des fachos, Jacques-Élie, il est gentil, c'est mon copain, mais les méchants, ils sont d'extrême droite, tous mes copains, ils sont en prison à cause des fachos, maintenant !» Donc, enfin, si vous voulez, je vous fais écouter un extrait de ce gros pleurnichard, vous allez voir.
Et le fait qu'aujourd'hui, je décide de prendre la parole, c'est très simple, c'est pour une raison évidente, c'est-à-dire de poursuivre mon mandat de député. J'ai reçu d'ailleurs énormément de messages, alors au milieu des menaces de mort évidemment aussi, qui ont expliqué en partie mon silence, mais pas que, c'est un mélange de tout un tas de choses.
Petit trémolo dans la voix qui déraille légèrement la victimisation, en fait c'est quand même des types qui voient aucun problème à l'idée de massacrer les gens, mais qui quand ils ont fini ils vont pleurer dans les chaumières parce que c'est difficile de faire face aux conséquences légales du truc. Il y a un côté très mauvais Dostoïevski là-dedans quand même, enfin non, honnêtement c'est du grand art, je dois dire, vraiment un très très beau poisson d'avril de la gauche, merci.
Comment dire, bon, sinon c'est quoi l'autre blague de la gauche?
Rima Hassan quand même. Alors, bon, là, c'était presque aussi fort. Elle a fait un petit peu en retard, mais hier matin, alors qu'elle était convoquée au commissariat pour apologie du terrorisme, elle a été chopée avec plusieurs grammes de drogue de synthèse dans son sac à main. Franchement, en tant qu'humoriste de radio, je peux juste applaudir. C'est du génie. Il y a un côté copie de philo, l'audace, c'est ça. Le niveau de second degré qu'il faut avoir pour faire ça, moi, j'aurais jamais osé à titre personnel. Hein. La dame, elle est députée européenne française, elle va au Comico et elle apporte de la drogue de synthèse. Enfin, là, on n'est pas sur un peu de cannabis, non, là, c'est le niveau au-dessus quand même. Comme ça, enfin, je sais pas. Enfin, alors, ça explique mieux ses prises de position et son rapport un petit peu compliqué à la réalité du monde, mais je sais pas, c'est comme aller en Iran avec une casquette MAGA, c'est comme aller à la mairie de Paris avec un t-shirt de la Manif pour tous. Il y a une sorte de confiance en soi indétrônable qu'on peut pas lui enlever. Et puis j'imagine la tronche des flics qui voit ça éberlué et Rima qui répond « Eh non, poisson d'avril, vous y avez cru, hein ?» Alors voilà, on a appris hier après-midi qu'en fait elle avait une boulette de shit et un gramme de 3 MMC, donc une drogue de chemsex, donc comme le disait Sébastien Chenu...
Partout, il y a du monde dans les réunions publiques, il y a du monde dans les soirées Beaujolais, il y a du monde dans les soirées chemsex...
Voilà, donc ça c'était juste gratuit pour le plaisir. Mais maintenant je me pose quand même une question essentielle. Qui a repris du service pour donner ça à Rima? Louis Boyard ou Andy Kerbrat? Je vous laisse décider en sondage. Enfin bref, on s'est bien amusé en ce 1er avril. Merci à les filles.
Et Alexandre, c'est vraiment arrivé tout ça, hein? En fait, il n'y avait aucun poisson d'avril.
Hein? Non mais... Attends. Mais vous êtes sûr de vous là?
Mais oui.
Oh là là. C'est une catastrophe alors. Quelle formidable bande de peintres, les impressionnistes de la connerie politique. Honnêtement, si j'étais Mélenchon, je financerais largement la fondation Jérôme Lejeune parce qu'avec ce niveau lamentable, il y a un côté parti du papotin, là. Enfin, si on faisait un film sur la France insoumise, j'appellerais ça un gros truc en plus. Ou alors une belle case en moins, je sais pas. Enfin, je vais appeler Artus à ce stade, je suis sûr que ça va faire des millions d'entrées, ce truc.
Alexandre, laissez les handicapés mentaux en dehors de ça. Je pense qu'ils ne méritent pas d'être comparés à la France insoumise. Parlez-nous plutôt des macronistes.
Oui, alors il y en a une belle qui est passée sous les radars, mais que mon sonar à débilité a repéré récemment. C'est Caroline Yadan. Alors elle, c'est la députée Renaissance qui a battu Meir Habib dans la circonscription des Français du Levant, donc Liban, Chypre, Israël, tout ça. Et puis elle a battu Meir Habib, mais je vous avoue que je suis pas certain d'à quel point on a gagné au change dans cette affaire. En fait, elle a fait une proposition de loi contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Alors, sur le principe, moi, je trouve ça entendable, à la limite. C'est vrai que c'est peut-être pas une mauvaise idée. D'un côté, ça permet de répondre aux mutations de l'antisémitisme, et ça permet de taper sur LFI. De l'autre, toujours la question de la liberté d'expression. Enfin, en soi, bon, pourquoi pas. Mais là, je dois dire que c'est complètement con. Ouais, alors, je me suis penché sur le texte et je suis tombé à la renverse. J'ai fait 3 galipettes, salto arrière. J'attrape les barres parallèles, je finis en position canard. Donc je vais vous citer l'article 2, c'est du pire génie. L'article 2 prévoit un nouveau délit réprimant publiquement le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d'un État ou de le faire publiquement l'apologie de sa destruction ou de sa négation. Bon alors là, vous dites que c'est fait pour ceux qui disent qu'Israël n'existe pas ou n'a pas le droit d'exister. Pas dramatique, à la limite. Sauf que Madame Yadan semble être une grosse truffe, avec tout le respect que je lui dois. Oui, bah parce que comment est-ce qu'on définit un État? Bon, en fait, c'est le président de la République qui reconnaît son existence. Et devinez quel État a été reconnu récemment? Bah la Palestine! Ah bah oui, c'est génial. Enfin, en fait, si la loi est votée, ça veut dire que tous ceux qui disent que la Palestine n'existe pas ou ne devrait pas exister, tous ceux qui soutiennent les crimes de Tsahal, à Gaza ou en Cisjordanie, toutes ces espèces de fanatiques sionistes, soutiens de Ben-Gvir, de Smotrich et autres agents de l'étranger pourront être condamnés. Donc, concrètement, pas impossible qu'un jour on puisse condamner Madame Yadan sur la base de la loi Yadan. C'est comme si Thierry Soler faisait une voix sur la transparence dans la vie politique. C'est comme si Emmanuel Macron rétablissait le crime de trahison de la nation. Enfin, non, honnêtement, il n'y a pas à dire. Bravo, Caro.
Bon, et ben, pour conclure cette chronique, vous avez une nouvelle idée pour réduire l'immigration et par le même coup améliorer le pouvoir d'achat et la santé en France. Ça peut nous être utile et j'espère que ce n'est pas lié au tasti-crousti, cela dit.
Oh, mais je vous vois venir avec vos gros sabots faire des liens indignes entre immigration et tasti-croustis. Non, c'est vraiment honteux. Et ça, ça déshonore la République. Non, ce que je propose tout simplement, c'est une loi sur la livraison de nourriture à domicile. Oui, alors c'est pas tout à fait intuitif, mais une nouvelle étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie nous donne la proportion d'immigrés dans la livraison de repas à domicile. Eh ben, si vous êtes debout, asseyez-vous, et si vous êtes assis, cramponnez-vous solidement à votre chaise, parce que là, ça décolle. 98% des livreurs de repas sont des immigrés. Mais attendez, c'est pas fini. 64% d'entre eux sont des clandestins. Oui, alors, clandos, surtout d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, on les voit errer autour des Burger King, des kebabs.
Oui, et des tasti-croustis.
Ah, et des tasti-croustis aussi, mais voilà, ils remplacent leurs besaces de mets délicats et huaridel. Ils pédalent ensuite qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'ils soient poursuivis par la police, livrés à un repas à 1,50€ par Mons et par Vaux. Ces messagers de l'estomac, ces pogachars du boulevard Foch, gravissent ensuite les étages et offrent leur présent au joyeux urbain gauchiste qui lui dit « Merci les gueux, j'ai pas d'écu pour toi, maintenant hors de ma demeure. La ripaille est mienne !» Non, mais plus sérieusement, vous pensez qu'on appliquera un jour la loi en France?
Eh bien, je ne pense pas. Merci mille fois, Alexandre Degalzin.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, nous retrouvons Rémy Tell. Bonjour Rémy Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, il y a eu cette euthanasie en Espagne qui est vraiment un cas d'école de la manière dont le pire est organisé. Il s'agit de Noelia Castillo Ramos, donc qui est morte. Rappelez-nous un peu les faits avant que nous commencions la discussion.
Oui, cher Richard, est-ce que vous m'entendez bien?
Mais très bien, très bien, tout le monde vous entend bien.
En région toulousaine, parfois, on a quelques problèmes de connexion. Oui. Liquidée chez Richard sur l'autel du progrès. Noelia Castillo Ramos, 25 ans, a été euthanasiée jeudi dernier dans la banlieue de Barcelone, suscitant une vive émotion de par le monde, pour ceux que ça intéresse. Son drame débute le 1er octobre 2022. Noelia, placée en foyer par la justice après le divorce de ses parents et plusieurs tentatives de suicide, est sauvagement violée par trois jeunes hommes en situation irrégulière, intégrés au sein de son foyer. Le 4 octobre, le choc conduit la jeune femme à se jeter du cinquième étage d'un immeuble catalan. Mais, ironie tragique, si elle échappe à la mort, une paralysie des deux jambes alourdit un peu plus encore le poids de son existence. Invalidée à 74%, Noelia endure d'atroces souffrances physiques que les médecins espagnols ne semblent pas à même d'apaiser. De leur côté, les psychologues qui la reçoivent diagnostiquent chez elle des troubles obsessionnels compulsifs, doublés d'états limites connus pour favoriser le passage à l'acte suicidaire. Pourtant, les soins ne semblent pas se poursuivre dans la durée, d'après les informations que nous avons aujourd'hui. À bout de force, Noelia réclame l'euthanasie en avril 2024. Vent debout, son père Geronimo retarde pourtant l'accomplissement du geste létal légalisé en Espagne 3 ans auparavant, déposant recours sur recours. Il engage ainsi une bataille judiciaire qui durera 20 mois. À l'été 2024, les juges espagnols acceptent d'étudier son dossier. Noelia est-elle véritablement capable d'un consentement éclairé? C'est la question centrale. Si Et sa mère l'a dit en possession de toutes ses facultés. Geronimo Cassio Ramos estime que le discernement de sa fille a été gravement altéré par les traumatismes. En mars 2025, Noelia réitère pourtant son projet lors d'une audience à huis clos. Et fin février, le tribunal suprême espagnol déboute M. Castillo Ramos, qui se pourvoit devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 10 mars, sans se prononcer sur le fond. La juridiction valide la procédure voulue par Noelia et son euthanasie est programmée pour le jeudi 26. Mercredi dernier, veille de son décès donc, Noelia avait accordé un entretien testament à la chaîne de télévision Antena 13. Elle y apparaissait sûre de son choix, mais l'éclairait d'un jour nouveau, dénonçant la tutelle exercée contre elle depuis l'enfance. Elle a été placée, donc, par l'administration de son pays. Depuis, on a appris grâce à diverses institutions que le médecin meurtrier de Noelia était par ailleurs chargé de greffe d'organes prélevés sur la jeune fille pour faire tourner son service. On a vu bien des choses, commenté bien des choses aussi ensemble, Richard, et on croyait ne pas pouvoir tomber plus bas dans l'abjection morale de l'époque. Nous nous trompions. Alors, deux conclusions rapides à quelques semaines d'ultime débat en France autour du projet de loi fin de vie. 1. Les partisans de l'euthanasie et du suicide assisté vous mentent. Ils vous mentent quand ils affirment que c'est un choix de liberté et d'humanité. Ils vous mentent en vous promettant des garde-fous, enjambés au moindre prétexte et au prix de la vie d'enfants abandonnés par la société. Ils vous mentent en prétendant qu'il y aurait dans cette pratique autre chose qu'une logique purement totalitaire, prenant prétexte des souffrances pour supprimer les souffrants. Deuxième conclusion, ce vendredi saint, l'euthanasie n'est pas n'importe quel crime, c'est un meurtre métaphysique. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, disait le Christ, sacrifié pour les péchés des hommes il y a vraisemblablement 2000 ans, jour pour jour, si on tient compte de l'erreur, du moine de Nice, sur la date de naissance du Rédempteur, un sauveur que, 2 millénaires plus tard, l'indifférence, l'orgueil et l'incroyance continuent chaque jour de crucifier.
Rémy Tell, merci pour ce rappel des faits. Il y a quelque chose qui est sorti après l'euthanasie et qui effectivement nous a tous saisis d'horreur, c'est le fait que le médecin qui a évalué Noelia, qui l'a aidé à être euthanasié, et le médecin qui avait dit à ses parents que ses organes étaient déjà promis, autrement dit qu'on avait déjà engagé Noelia dans un processus de don d'organes, et donc cette personne a considéré qu'il était compliqué de revenir en arrière, parce que vous comprenez, j'ai donné ma parole qu'on allait pouvoir récupérer son foie et ses poumons, et ce serait quand même malpropre qu'on ne puisse pas respecter la parole donnée par un médecin aussi sérieux que moi-même. Donc, je caricature un peu évidemment, mais c'est absolument stupéfiant. Donc on a un médecin qui est engagé lui-même dans une espèce d'intérêt personnel qui est de récupérer des organes sains. Et d'ailleurs, parmi les arguments qui ont été avancés, on nous explique que l'euthanasie permet justement d'avoir des organes très sains. Et donc il y a presque un réservoir, un gisement de productivité d'organes sains qu'il a été criminel en fait de laisser en jachère. Et donc on se retrouve avec maintenant un nouvel argument au profit des euthanasistes qui nous explique que ce serait vraiment dommage que tous ces beaux organes ne servent pas tout de suite à ceux qui en ont besoin.
Oui, et c'était un argument que nous autres contempteurs de l'euthanasie n'avions même pas osé imaginer. On a parlé beaucoup, y compris sur cette antenne, de la fausse liberté, du faux choix en fait que représente l'euthanasie et le suicide assisté, en évoquant le poids notamment pour la société dans le regard des autres, et cette espèce d'obligation tacite pour un certain nombre de personnes souffrantes de recourir à l'euthanasie dès lors qu'elle est rendue possible, sans jamais imaginer que parmi les arguments nouveaux que trouveraient les euthanasistes, il y avait aussi cette espèce d'altruisme de vous contraindre à aller jusqu'au bout parce qu'on a déjà promis vos organes à d'autres et que si donc vous ne voulez pas mourir, ce sont d'autres qui mourront. On est là dans une logique d'une perversion, je pense, qui est quand même relativement inédite, y compris dans cette histoire humaine qui est jalonnée d'horreur et de crimes de toutes sortes, mais quelque chose d'aussi pervers, c'est-à-dire d'expliquer à quelqu'un que s'il refuse de mourir, d'autres vont mourir à cause de lui. Pardon, mais on est sur du purement satanique et du purement diabolique. Et vous voyez, on ne l'avait même pas anticipé, ce qui signifie bien que quand on prétend organiser ce changement, l'encadrer, même avec la meilleure volonté du monde et même de bonne foi, ben très vite, on échappe complètement.
Alors, ça, c'est... Cette euthanasie donc de Noelia Castillo-Ramos a suscité beaucoup d'émotions. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de ne pas la mettre en relation avec d'autres cas, soit d'euthanasie, soit de propositions d'euthanasie qui ont été faites. Les réseaux canadiens et les réseaux anglo-saxons généralement sont friands de témoignages de personnes qui expliquent qu'elles sont arrivées à l'hôpital pour savoir pourquoi est-ce qu'elles avaient très mal ici, pour réclamer des soins, et passé un certain âge, la première réponse du corps médical anglo-saxon, au Canada par exemple, est de proposer à la personne une aide à mourir, comme on dit pudiquement, autrement dit de proposer de les euthanasier. C'est-à-dire, avant même l'examen médical, la personne fait comprendre à celle qui arrive dans l'hôpital que, après tout, au point où elle en est, pourquoi diable s'occuper de sa carcasse ? Et le plus simple, ce serait quand même d'être endormi rapidement. Et donc les gens témoignent en étant encore effaré de la manière dont cette institution médicale, dont on nous explique qu'elle est là pour nous sauver, qu'elle est là pour nous aider, qu'elle est là pour faire en sorte que tous ces soins dont nous avons besoin nous soient prodigués de la manière la plus simple et la plus gratuite possible, eh bien, au contraire, cette institution est en train de se transformer en fait en gestionnaire de la vie des autres et en grand juge et grand arbitre de la nécessité de vivre ou pas.
Aujourd'hui, la littérature sur ces cas est abondante et elle est abondante à ce point, enfin à telle enseigne, que on estime, par exemple, au Québec ou en Amérique du Nord, là où c'est possible, que ce ne sont pas des exceptions, mais c'est plutôt la règle aujourd'hui. Ça vaut pour les douleurs physiques, ça vaut pour les douleurs morales, ça vaut même, dans certains cas au Québec, pour la précarité économique. Où il y a quasiment du démarchage à domicile en fonction des pathologies renseignées par les uns et par les autres, avec des gens qui reçoivent des lettres. Avez-vous déjà songé à l'aide médicale, à l'aide médicale à mourir ? Alors qu'à nouveau, c'était des contextes où on prétendait ouvrir un droit strictement encadré, avec des garde-fous et une impossibilité, d'une certaine façon, d'échapper au cadre qui avait été préalablement défini. Et en fait, très rapidement, la logique économique qui préside déjà à la volonté d'égaliser l'euthanasie reprend encore le dessus et surmonte tous les garde-fous qui ont été mis en place. Et ces exemples sont aujourd'hui abondants dans la plupart des pays qui ont légalisé l'euthanasie. Et vraiment, le fait que le cas de Noelia se soit déroulé en Espagne est intéressant parce que l'Espagne avait un encadrement qui semblait a priori très strict de l'euthanasie. Il fallait être dans des cas de souffrance atroce, de souffrance irrémédiable, de souffrance physique. Donc, a priori, on se disait, bon, c'est vraiment réservé, on parle beaucoup de la maladie de Charcot, à ce genre de patients. Et en fait, on a réussi à placer Noelia dans ces cases-là et à l'euthanasier à 25 ans, après des tentatives de suicide, après un abandon de la société, parce qu'il se trouve que ce placement en foyer était vraisemblablement un placement abusif. On l'a laissé être agressée par 3 hommes en foyer. Il n'y a pas eu de soins ensuite psychologiques pour Noelia. Donc, on n'a pas pris en soin cette jeune fille. Cet appel à l'aide continue qu'elle exprimait depuis des années, et on a répondu à sa souffrance en mettant fin à la souffrance, en tuant la souffrante en réalité, en tuant cette jeune femme Noelia. Et évidemment, certains auront beau jeu de dire, mais Elle l'a demandé, elle l'a voulu, elle l'a réitéré malgré l'opposition de son père. Qui peut sincèrement penser que dans le contexte dans lequel elle se trouvait, y compris d'ailleurs dans le contexte d'abandon institutionnel dans lequel elle se trouvait, elle était véritablement en position de faire un choix libre, de faire un choix éclairé? C'est dans une société qui prend soin des fragiles, qui prend soin des personnes les plus vulnérables, les plus faibles, la série d'événements qui a conduit à l'euthanasie de Noëlia, sans doute n'aurait même pas pu arriver, qu'il s'agisse du placement abusif, qu'il s'agisse du viol par les mineurs non accompagnés, qu'il s'agisse ensuite de l'absence de prise en charge psychologique et psychiatrique dans la durée. Tout ça n'aurait pas pu arriver. Et donc, on répond aujourd'hui à la souffrance en supprimant le souffrant, y compris dans des contextes prétendument ultra réglementés.
Alors, ce cas espagnol montre bien que, invinciblement, les puissances du marché, d'une part, mais aussi les idéologues qui tiennent absolument à nous présenter l'euthanasie, la mort volontaire, et dont on voit bien au contraire que c'est une mort influencée, comme étant un progrès, repoussent systématiquement le cadre de la loi. En France, on a réussi pour le moment à avoir un débat sur l'euthanasie qui, d'une part, évidemment, ment en partie aux Français sur l'encadrement réel qui va être donné à cette pratique, qui, d'autre part, nie le fait qu'il puisse y avoir une dérive, on ne peut même pas parler dérive, que la logique même de l'euthanasie et l'extension continuelle du domaine de l'euthanasie, des gens comme Rossignol l'ont dit et l'ont proclamé, et donc, autrement dit, le législateur qui prétend ne pas tenir compte de ce qui est dit par les promoteurs de l'euthanasie est juste quelqu'un qui ment par omission, qui fait exprès de se cacher les yeux. On voit aussi en France que l'opinion publique, peu à peu, est de moins en moins favorable, mais malgré tout reste majoritairement favorable, que les parlementaires sont de moins en moins favorables, mais malgré tout restent majoritairement favorables. La multiplication des cas comme celui de Noëlia Ramos va-t-elle permettre une espèce de surprise qui ferait en sorte que, aussi en France, le débat bascule comme il a basculé en Écosse, où finalement la loi sur l'euthanasie n'a pas été votée?
On peut l'espérer. Cependant, il faut tenir deux choses en même temps, sans quoi les Français resteront favorables à l'euthanasie. Tant qu'on ne donnera pas les moyens aux hôpitaux de prendre en soin, je dis bien prendre en soin et pas prendre en charge, de prendre en soin les souffrances de fin de vie, vous trouverez des gens qui, de bonne foi, je parle des patients, pas des idéologues et des loges maçonniques, des patients qui préféreront recevoir une piqûre plutôt que d'agoniser en fin de vie. Et comment ne pas les comprendre? C'est-à-dire que, évidemment, que cet exemple terrible, ignoble de Noëlia doit servir d'avertissement aux sénateurs qui, début mai, vont réexaminer en deuxième lecture le projet de loi fin de vie. Mais si dans le même temps, on ne s'assure pas que vous puissiez avoir accès à des services de soins palliatifs dédiés dans chaque département français, 20 départements sont encore dépourvus, ça fait 3 ans qu'on dit que 20 départements restent dépourvus d'unités dédiées de soins palliatifs, ça fait 3 ans qu'on le dit, ça fait 3 ans que les pouvoirs publics répondent « mais on va généraliser, vous inquiétez pas, d'abord on fait les soins palliatifs et ensuite on fait l'euthanasie ». Et ils sont où? Elles sont où ces unités dédiées dans les 20 départements qui manquent? Vous voyez, elles sont encore absentes. Et tant qu'elles seront absentes, les gens continueront à être tentés par l'euthanasie et par le suicide assisté. Donc, les pouvoirs publics doivent rendre des comptes sur les promesses qu'ils ont faites vis-à-vis des soins palliatifs et qui n'ont évidemment pas été tenues, puisqu'évidemment, il y a derrière ça à la fois une logique budgétaire et en même temps une logique idéologique. Et comme... Lorsqu'on met en place ces solutions, les demandes de mort cessent, si vous voulez, la mise en place de ces solutions, c'est la fin de l'euthanasie. Et comme ces gens-là la veulent coûte que coûte, enfin, on l'a rappelé plusieurs fois à cette antenne, quand les gouvernements sont tombés, ça a été le premier projet de loi qui a été remis sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Ça en dit long quand même sur le zèle d'un certain nombre de parlementaires, de la présidente de l'Assemblée nationale, sur cette question. Donc, en fait, ils ne veulent pas mettre en place les soins palliatifs parce que mettre en place les soins palliatifs, ça veut dire qu'on arrête l'euthanasie et que les gens n'auront plus ce réflexe-là de penser à l'euthanasie, de penser au suicide assisté. Mais donc, pour permettre une fin de vie qui soit véritablement humaine, qui soit à la hauteur de la promesse que fait la société à ceux qui la composent, il faut bien sûr généraliser ces unités de soins palliatifs, sans quoi, le diable rentrera toujours par cette porte-là pour nous dire « mais vous voyez, il faut bien des solutions pour un certain nombre de patients, l'euthanasie ou le suicide assisté ». Donc oui, le cas de Noëlia, évidemment, servira, je l'espère, d'avertissement. Mais si on ne tient pas à la promesse des soins palliatifs, eh bien, on sera condamné à subir le même sort que subissent l'Espagne, le Québec et tous les pays qui ont légalisé cette méthode atroce.
Alors, Rémy Tell, il nous reste 2 minutes, non pas pour finir ce débat, mais pour avancer dans la réflexion. Cette euthanasie en France, vous l'avez souligné, nous sommes tous d'accord, voilà, est le résultat d'une démarche totalement idéologique. Et on sent en plus que cette idéologie est le résultat des noces hybrides entre, là aussi, l'intérêt du marché, avec par exemple les présidents des mutuelles qui nous expliquent très tranquillement que le vieux coûte cher et donc autant l'expédier ad patres, et une espèce d'instinct de mort qui se présente comme étant la volonté de s'émanciper de tous les dogmes religieux ou philosophiques qui feraient en sorte qu'on consacre la vie comme étant le bien suprême. Donc, il y est absolument remarquable de voir que la part économique du marché, qui une fois de plus est démontrée avec Noëlia, est niée une fois de plus par l'État français qui refuse de considérer que son manque d'investissement dans les soins palliatifs est une décision financière, que sa promotion de l'euthanasie avec le lobbying des mutualistes est une décision financière et que le marché de la mort est en fait un marché qu'il envisage.
Oui, en une minute. Pour ceux qui en douteraient, regardez ce qu'a fait la MGEN depuis plusieurs années, qui s'affiche ouvertement aux côtés de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Regardez la position du Conseil économique, social et environnemental, présidé par Thierry Baudet, ancien patron de France Mutualiste, sur la question de l'euthanasie et qui avait été en charge, le CESE, de la Convention citoyenne sur l'euthanasie. Quant au deuxième aspect, à l'aspect à la fois mortifère et idéologique, les défenseurs de l'euthanasie nous désigneront comme d'horribles fanatiques religieux. Moi, je les désigne comme d'horribles fanatiques religieux, car c'est une vision religieuse qui est la leur, que de pouvoir affirmer contre le bon sens médical, contre la morale commune, qu'il est absolument impérieux de pouvoir décider de sa propre mort et de pouvoir laisser l'État décider de qui peut vivre et qui doit mourir. C'est une vision religieuse et la religiosité, en réalité, dans ce débat, elle est du côté des défenseurs de l'euthanasie et du suicide assisté.
Merci beaucoup, Rémy Tell, et à dans 15 jours.
Ligne droite.
Et j'ai le plaisir de recevoir Maximilien Friche.
Bonjour Richard.
Bonjour Maximilien, voilà, vous êtes directeur littéraire des éditions Nouvelle Marge, animateur de la revue en ligne Mauvaise Nouvelle, et vous revenez avec une brassée de petits livres délicieux.
Trois petits livres, parce que j'ai choisi en fonction du jour, parce qu'on n'est pas n'importe quel jour, vous le savez, quand même, Vendredi Saint. Et donc j'ai recherché des livres qui pouvaient nous plonger en nous-mêmes faire révéler en fait la part mystique de notre être. Et le premier s'appelle Les Noces de Gênes, il est signé Bernard Bonnel. Et alors, les noces de Gênes, c'est à la fois déclaration d'amour et leçon de théologie. Le récit commence par un simple accident de la route d'un vieux couple, un couple 87 et 85 ans. Et le narrateur, sous-préfet, les regarde et les envie, en fait. Ils ont vieilli ensemble, ils ont eu la chance de cheminer ensemble jusqu'à la mort. Dans leur civière, il les voit comme des enfants royaux endormis côte à côte dans leur lit de marbre, des gisants donc. C'est alors que tous ces souvenirs remontent et Bernard Bonnel en fait le récit. Alors, il aurait pu nous raconter ses aventures de marin à travers le monde au bord de la Jeanne. Non, il préfère nous raconter son mariage. Il raconte la rencontre avec sa femme jusqu'à sa mort. Par la retranscription de ses souvenirs, en fait, il veut racheter des gestes absents. à peine esquissé. Vous savez, on refuse la grâce qui nous est donnée souvent. Et il avoue lui-même, par deux fois, j'avais méprisé l'amour que tu m'offrais. Relisant son histoire, Bernard Bonnel nous offre une petite leçon de théologie, en fait, sur la communion des saints, rien que ça, une vision du paradis. À l'origine et en point de mire du récit se trouve un retable de Ludovico Brea à Gênes. Et sur ce retable, qu'est-ce qu'on voit ? La triade divine qui est comme perdue dans une grande houle d'hommes et de femmes, d'où sourdait une joie paisible, nous dit-il. Le mariage est ici vécu comme une anticipation de la communion promise au ciel. Il s'agit de se distinguer des passions humaines, trop éphémères. Il qualifie sa femme de « sa meilleure amie ». Car c'est de là considérer ce mariage comme le sacrement de leur amitié. Aussi s'efforce-t-il d'ouvrir leurs enfants à l'amitié avec Dieu. Et l'homme veuf ressasse ses souvenirs, balaye les photos et prend conscience que chaque visage est appelé à devenir une icône et rejoindre, dans sa singularité, la foule du retable. Sa femme disait bien, à l'inverse de Sartre, que l'enfer c'est la solitude. Cette ode au mariage que nous offre Bonnel a la vertu de nous rapprocher le ciel en fait. Et avec simplicité, clarté, il nous fait contempler le mariage comme une intrusion de l'au-delà, ici-bas. Et si demander quelqu'un en mariage n'était que le désir de vieillir ensemble. Nous avons vieilli ensemble, nous avons miséré ensemble, et je pense à une phrase d'Yves Simon, « Nous avons miséré ensemble et je l'aime ». C'est ce que disait un vieux poète aux cheveux de la guerre d'avant, « Il faut que nous misérions ensemble ». Voilà, donc Bernard Bonnel, « Les noces de Gênes », c'est à la table ronde. C'est un petit livre tout petit, il faut lire ça en couple, bien évidemment, chacun de son côté, et après, on en parle ou on le vit, n'est-ce pas ? Basculons en poésie maintenant. Thibaut Biscara, sous les chaînes de Mamré. Et l'écriture est une forme de la prière. Hein. Mais quel culot, le poète a donc l'art de ne plus dissimuler sa prière, d'afficher qu'il cherche depuis le début et au-delà et au travers des ornements à se relier à l'invisible. Avec son nouveau recueil de poésie, sous les chaînes de Mamré, Thibaut Biscara livre comme une nouvelle série de psaumes, en fait, proposés aux fidèles. La poésie apparaît dès lors comme le seul exercice spirituel véritablement honnête. D'ailleurs, dès le commencement, les cantiques des cantiques s'élevèrent. Il faut dire que le poète entre dans la vie éternelle par son art d'écrire. « L'écriture est mon baptême, dit-il. C'est bien en écrivant que le poète devient enfant de Dieu. » La preuve est que le poète se sent dépassé par ses propres phrases. « Le poème est plus grand que mes pensées, dit-il. » Thibaut Biscara s'emballe. C'est bien normal. Il s'extasie sur ce qui lui file entre les doigts comme par magie. Les mots sont merveilles. Ils sont le bien suprême. Le poète deviendrait-il adorateur ? Adorateur du poème ? Eh bien, si c'est le cas, ce n'est pas du sien, mais de celui auquel il participe sans jamais le compléter, le poème de la création, qui est verbe de Dieu, parole efficace. Alors le recueil alterne entre la louange, la description de visions dont le poète a la grâce de bénéficier et pour lesquelles il nous livre la glose de ses ressentis. Transi par les visions, les révélations, il sent que la foi enivre. Il faut rester concentré et consigné. Il se fait en fait le scribe de ce dont il est témoin, comme Saint Jean lors de l'Apocalypse finalement. Et ses rêves sont des paraboles. Thibaut Biscara va parmi les Écritures, nourri de psaumes et de versets. Il ose son murmure pour entrer dans le concert de celui des anges. Bon, il s'est fixé comme objectif de trouver la parole incarnée, et c'est ainsi que le poème peut être à la fois extase et consolation. Il en ressort quoi ? Qu'une profession de foi se doit absolument d'être aussi et d'abord louange. Le poète aurait-il découvert le secret de la sagesse qui est joie ? Ce qui est à l'œuvre est sans cesse de traduire dans sa chair la parole reçue et ainsi comprendre davantage ce que l'on sait de toute éternité. Il faut admirer celui qui écrit car il n'a pas de doute. Ce poète-là baigne dans le contraire de la nuit de la foi. Il flotte dans la lumière non saisie par les ténèbres. Je vous le recommande, c'est une petite lecture de Pâques. Sous les chaînes de Mamré, poésie de Thibaut Biscara, c'est chez Ars Poetica, 70 pages, 12 euros. Et pour finir, cher Richard, pour rester dans la même ligne pour ce Vendredi Saint, après un récit et des poèmes, nous basculons dans un conte fantastique. Un conte fantastique qui s'appelle Marel. Il est signé Luc-Olivier Dalgange. Dalgange, c'est un aptonyme, il a trop de chance de s'appeler comme ça. La promesse est donc énorme. Et le vertige immédiat, sans doute était-il venu pour l'ange de la littérature de nous faire pénétrer ses rêves, de nous emmener sans retour possible à sa suite. Alors au début, on croit s'être trompé de livre, hein, carrément, car le mot qui l'obsède a une lettre de trop. Il s'agit de Margelle. Ce mot est entendu au-dedans du narrateur, mais de quel appel peut-il s'agir ? Et puisque c'est insistant, Cela ne peut être qu'une question de vie ou de mort. Hein. Un voyage en taxi commence. Où va-t-on ? Qui conduit ? Toujours, on ne sait pas. Tout a l'air évident, sauf pour le narrateur et sauf pour le lecteur que nous sommes. Hein. Voilà. Donc néanmoins, aller de l'avant. Néanmoins, se soumettre à l'exil et s'aventurer dans les marges extrêmes de l'improbable. La quête est toujours celle du lieu et ce dernier échappe à la fois à l'espace et au temps. Le narrateur se pose bien des questions, bien sûr, et pourtant se laisse guider dans une sorte de fidélité et avec curiosité. Nous sommes sans doute dans un rêve, je ne vois que ça, cette succession d'images sans lien de causalité en est la preuve. Il faut encore avoir recours au poème pour tisser des liens entre elles. Et quand il arrive quelque part, c'est avec l'impression d'y être revenu. L'exil est éternel retour. Il ne s'agit donc pas de partir, mais de revenir. Le narrateur se prend la tête en pérégrination. Il est dans un enchevêtrement d'hypothèses, comme s'il était dans l'expiation d'une faute ancienne. Mais de cette faute, il ne resterait que la honte, quoi. État d'âme qui amène ses yeux à se poser sur un mot, ciel, écrit à terre. Voilà donc la marelle. Exit la lettre de trop du début. Cette marelle était une cathédrale et cette cathédrale, un univers. Il conviendrait à cloche-pied, hein, en jouant sur cette marelle, de passer du narthex au déambulatoire, en passant par la croisée des transepts, de la terre jusqu'au ciel, en passant par la croix du Christ. Soyez-en certains, donc cela vaut le coup de se perdre dans ce petit conte fantastique, parce qu'après tout, se perdre, nous ne sommes pas une grande perte au regard des images démultipliées qui nous sont offertes pour convertir notre regard. Voilà. Donc osons se perdre dans Marelle de Luc-Olivier d'Algange, conte fantastique, et c'est aux éditions Alcor. Voilà, que voilà. Donc voilà les trois petits livres pour ce Vendredi Saint, adaptés pour puiser en nous-mêmes. Voilà.
Eh bien, mille merci Maximilien Frisch, une fois plus, de nous avoir apporté une littérature contemporaine d'aussi bonne qualité. Et à très bientôt.
À très bientôt, Richard.
Et tout de suite, Côme nous apprend à vivre.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonjour Jérémy Côme.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne plus d'un foyer sur trois, les propriétaires de chiens. Et sur ce sujet, vous avez des choses à dire.
Eh bien oui, ça paraît banal, mais on ne connaît pas votre chien et tout le monde croit que notre chien est le plus apprécié. On peut avoir peur, surtout s'il est d'une grande et belle taille. Il faut le garder à distance et évidemment en laisse. Faire très attention avec les enfants qui n'ont pas toujours la notion du bien ou du mal. Et puis, vous voyez, on pense aux sachets, vous me comprenez?
J'ai bien compris. Parlons justement des enfants et des chiens. Quelles sont les règles à mettre en place?
Le plus gentil des chiens et le mieux dressé n'apprécie pas toujours qu'un inconnu, même tout petit, se précipite vers lui pour lui faire un câlin. Sa réaction peut être agressive. Les chiens aussi aiment les bonnes manières et les présentations en bonne et due forme. C'est à vous, cher propriétaire, de gérer votre chien, mais aussi aux parents d'expliquer cela à leurs enfants. Pour éviter une mauvaise surprise, le mieux est de rester très prudent.
Géry, je tiens quand même à vous faire remarquer qu'avec vous, on n'a pas souvent droit à des écarts. Nous sommes au garde à vous depuis septembre. Oh. Là, on n'est pas obligé de tenir toujours en laisse ces chiens quand même.
Bah, si, normalement, la laisse est obligatoire. Et en plus, vous savez que le chien se sent en sécurité quand il sait que son maître le retient.
Un vrai Français.
Un vrai Français, exactement. Si un bruit fort lui fait peur, vous pouvez le retenir et éviter un drame. Et puis pour les passants, c'est rassurant. Moi, j'ai un peu peur des chiens. Et savoir qu'il y a un périmètre au-delà duquel le chien ne peut pas nous atteindre, c'est quand même mieux. Il y a, en plus, chers amis, surtout dans les grandes villes, mais même en région, il y a des enclos dédiés aux chiens en liberté et pour qu'ils soient en toute sécurité. Petit rappel, mes amis, les pelouses et les aires de jeu sont interdites aux chiens. Il est interdit de laisser son chien se baigner dans les bassins et les fontaines, même par forte canicule, parce que niveau hygiène, on peut comprendre la règle.
Alors, vous nous parliez de sachets tout à l'heure, mais bizarrement, les chiens font toujours leurs besoins dans les lieux qui ne sont pas réservés à cet exploit. Que faire?
Eh bien, faire preuve de politesse ou d'éducation. C'est aussi éviter de laisser votre chien marquer une entrée de porte, un hall d'entrée, voire une poussette de bébé. Sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins, c'est naturel, évident et nécessaire. Pour autant, c'est à vous de laisser les trottoirs propres tout au long de votre promenade. Certaines communes proposent des bornes avec des sacs pour ramasser les déjections. Sinon, prenez l'habitude de sortir avec votre propre sachet. Alors je sais que certains auditeurs vont se dire bah, « on le sait tout ça ». Mais preuve est de constater que ce n'est pas toujours le cas et que parfois il y a des espèces de propriétaires qui sont au téléphone et qui font semblant de ne pas voir. Parce que c'est pas très agréable, on va pas se mentir, de ramasser ce qu'a fait votre chien.
C'est vrai, merci beaucoup, Jérémy Combe.
Ligne droite, la revue de presse.
Et cette revue de presse, le vendredi, c'est avec notre partenaire Valeurs Actuelles. Bonjour, tu gueules, Denis.
Tous vos auditeurs en ce vendredi saint. À la une de Valeurs Actuelles, cette semaine, vous allez retrouver Alain Finkielkraut, un de nos philosophes préférés à tous, avec ce titre « L'histoire n'est pas encore écrite ». Alors, on est vraiment très heureux de publier cette semaine cet entretien, parce que, si vous voulez, il intervient dans un moment où la conversation publique, le débat d'idées, la vie politique nous offre un spectacle terrifiant. Il y a eu évidemment l'arrestation hier de Rima Hassan, enfin la garde à vue, initialement pour propos faisant l'apologie du terrorisme, et on a découvert de la drogue dans cette affaire personnelle. Pour une députée européenne, ça fait quand même des ordres, une très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a eu ces scènes au moment du second tour des élections municipales, de brutalisation d'anciens maires, parfois d'ailleurs socialistes, par des élus LFI, ou en tout cas leurs sbires, leur soutien, avec des vociférations, avec une espèce de climat absolument désagréable. Et face à ça, on se retrouve avec ce que moi j'ai appelé dans mon éditorial une âme française, c'est-à-dire ce cœur lourd, pour reprendre le dernier titre du livre d'Alain Finkielkraut chez Gallimard, somme de ses entretiens avec Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint du Figaro. Ce cœur lourd d'Alain Finkielkraut devant ce qu'est devenu l'Occident, devant ce qu'est devenu la France, et avec cette espèce de nostalgie, mais aussi de sophistication dans la manière de l'exprimer qu'on retrouve chez Alain Finkielkraut. Par exemple, quand il dit que l'état de droit est dévoyé par... l'état de droit ne doit pas empêcher le droit de l'État. C'est une très bonne formule qui résume évidemment les empêchements que nous nous auto-imposons. Et puis ce cœur lourd devant ce qui est devenu le niveau de la langue française, le niveau de l'enseignement, ce qui est devenu le petit théâtre antifasciste qui monopolise le débat d'idées et qui fait que plus personne ne peut se parler sans être insulté avant même d'avoir pris la parole. Voilà, ça fait du bien, en gros, de reprendre un peu de hauteur avec quelqu'un comme Alain Finkielkraut.
Alain Finkielkraut, voilà, qui, effectivement, fait partie de ces philosophes qui considèrent que parler à la droite et parler des choses de droite n'a rien de condamnable, et donc qu'on ne devient pas fasciste juste parce qu'on serre la main de Valeurs Actuelles ou même qu'on en fait la couverture.
Non, écoutez, effectivement, il a eu la délicatesse de nous accorder beaucoup de temps, en plus avec la guerre en Iran... Et certaines actualités, on a un peu décalé la publication de cet entretien, mais je trouve que finalement, ça tombe très bien qu'il soit publié maintenant, parce que il y a cet effet de contraste absolument saisissant. Bon, je suis pas très objectif, mais je recommande aussi à vos auditeurs la lecture du portrait qu'en fait Michael Fonton, qui est un de nos journalistes et qui connaît vraiment très bien l'œuvre d'Alain Finkielkraut. C'est lui évidemment qui a réalisé l'entretien. Mais voilà, c'est un portrait plein de références, plein de citations, enfin, très abouti, je trouve, du philosophe, et très sensible surtout, parce que Alain Finkielkraut, c'est quelqu'un de très sensible. Il faut quand même se souvenir que quand il a fait son livre avec Vincent Trémollet de Villers, ils se sont vus pendant plusieurs années à faire des entretiens, et il disait toujours à la fin, bon, si c'est pas bien, on jette tout. Hein. Et alors qu'évidemment, c'était évidemment très bien à chaque fois.
C'était très bien à chaque fois, comme ce numéro. Et juste pour satisfaire ma marotte, quel est l'autre article que vous nous recommandez? À chaque fois, je sais que c'est crucifiant pour vous, vous êtes obligé d'en choisir un alors que vraiment, vous les avez tous validés.
Non, non, écoutez, c'est absolument pas crucifiant, je vous en prie. Bah, c'est peut-être un peu redondant à ce que je viens de dire, mais on a une grande enquête en rubrique société sur la Nouvelle-France. Je mets bien des guillemets à Nouvelle-France, qui est l'expression de ceux qui justement s'en revendiquent, avec des témoignages absolument saisissants de ce qui se passe notamment dans la petite couronne parisienne avec ses nouveaux maires et les filles. On a aussi la nouvelle vie d'Éric Ciotti à Nice, qui évidemment... avec cette victoire contre Christian Estrosi, tient une très grande revanche politique, et ainsi qu'une enquête. Je ne vais pas évidemment faire tout le sommaire, mais on a une enquête sur la DZ Mafia, ce gang mafieux très impressionnant qui règne entre guillemets sur le narcotrafic en France, qui a des ennuis judiciaires, et on explique comment la lutte juridique peut éventuellement essayer d'entraver les mauvaises manières entre guillemets de la DZ Mafia.
Voilà, les mauvaises manières de cette nouvelle France, elle aussi. Merci beaucoup, Tuc Dualdoni, et à la semaine prochaine.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'ai le plaisir de réunir autour de moi l'espoir de la France, Louis Rigaudière, Magda Hautefeuille et Alexandre de Galzin, qui tous, à un titre divers, sont des êtres pétris d'intelligence, de sensibilité, de talent.
Quel honneur.
Et vous, par exemple, Louis.
Bonjour à tous, bonjour Richard. Moi, je voulais évidemment rebondir sur l'excellent décryptage de Magda Hautefeuille, qui est évidemment revenu sur les propos ahurissants de Laurent Nunez, qui ont été tenus hier ou avant-hier dans une mosquée, où il déclarait qu'il défendait le voilement des petites filles pour préserver le vivre ensemble de la République, etc., etc. Vous avez tous entendu cet extrait, j'imagine. Alors, j'aimerais vous... partager une réflexion de Pascal Praud sur ce sujet et qui se pose une question plutôt éclairante. Je vous laisse écouter.
Laurent Nunez, il a une pensée, je ne sais pas s'il est franc-maçon, hein. C'est exactement la pensée socialiste et franc-maçon. Voilà. Toutes ces interventions sont à décoder à l'aune d'une pensée qui existe, hein, qui est une pensée, une philosophie. Ces prises de parole sont à décoder à l'aune d'une pensée socialiste et franc-maçon. C'est-à-dire que ce sont les discours qui sont entendus au Grand Orient. Je le répète, je ne sais pas s'il est franc-maçon ou pas.
Est-ce qu'il est franc-maçon, Laurent Nunez? Bah, oui. Écoutez, c'est une bonne question.
Oui.
Justement, mais alors, on n'avait pas de source, en tout cas. Mais,
si, il y a plusieurs journalistes qui ont établi hier, qui ont récupéré des informations et qui ont expliqué qu'effectivement, il appartenait à une loge. Alors, je ne sais plus laquelle.
C'est exactement.
Je m'y perds un petit peu entre tous ces espèces de.
C'est exactement là où je voulais atterrir, justement. Merci, Alexandre, parce que c'est Amaury Brelet de Valeurs Actuelles qui a ressorti l'information en relayant l'extrait d'un bouquin qui s'appelle Le côté obscur de la force, enquête sur les dérives du ministère de l'Intérieur. Publié en 2023 par Vincent Nouzi, qui est journaliste, et qui révèle que Laurent Nunez est bien franc-maçon et qu'il a été initié donc, à la GLDF, Grande Loge de France, hein, si je ne m'abuse. Mais de son côté, il ne confirme pas, mais son entourage explique qu'il a bien été initié, même s'il a pris ses distances avec
bien sûr.
Voilà. Donc ça explique un petit peu les propos tenus avant-hier. Voilà.
Vous êtes dans la même loge, Richard ?
Non, je ne suis pas franc-maçon. Voilà, je tiens à l'avouer publiquement. Je n'ai été initié par personne. Je ne compte pas l'être. Et même, je suis cruellement déçu de n'avoir jamais été approché par la franc-maçonnerie. Ça prouve que je ne sers à rien. Voilà. Pardon de m'être épanché cette blessure.
Révélation, là.
Cette blessure d'amour propre. Voilà. Magda Hautefeuille.
Moi, je vais vous parler d'animaux parce que ça faisait longtemps.
Ouais. Merci.
Voilà. Faut que ça revienne. Je vais vous parler d'animaux, mais du coup j'ai un peu devancé mon intro, mais c'est à Mosch, dans un petit village d'Alsace.
Ah, Mosch.
Ouais, qu'il y a une école. Alors, je vais compter que c'est une école qui risque de devoir fermer une classe, puisqu'il manque 4 élèves dans l'école de la commune pour atteindre 100 élèves et conserver donc toute la classe. Donc c'est un petit peu ahurissant qu'on en arrive là. Et alors Abondance, Amandine, Abeille, Arlette et Amsel, qui sont 5 génisses, vont être inscrites à l'école. Voilà, c'est symboliquement pour l'école va pouvoir garder sa classe, pour compléter la classe, exactement.
C'est impeccable, voilà, une nouvelle utilisation du cheptel bovin. Et vous, camarade Galzin?
Moi, j'aimerais bien prendre de la hauteur un petit peu.
Enfin, arrachez-nous aux turpitudes dans lesquelles nous roulons depuis ce matin.
Voilà, prendre un peu de la hauteur pour parler de pigeons. Par rapport au fait que ça vole, vous voyez.
Oui, non, mais voilà, je suis conscient. Donc, c'était pas clair.
Non, mais en fait, je voulais parler de cette femme catalane qui en fait a été condamné à 800 euros d'amende pour nourrir des pigeons, pour avoir nourri des pigeons.
800 euros.
Ouais, 800 euros d'amende pour avoir nourri des pigeons alors qu'elle a 500 euros par mois à vivre.
C'est une récidiviste.
Donc, en fait, je pense que à des heures comme les nôtres où la question du budget est aussi sensible, où on est quand même à un déficit de 5,4%, j'aurais condamné cette femme assez irresponsable finalement, qui sans doute fait plonger les finances publiques catalanes de manière abjecte et donc par la même voilà, un impact sur le budget européen.
Eh bien, je propose qu'elle soit euthanasiée et que l'ensemble de ses organes soient vendus au profit de la municipalité catalane.
Oui, voilà, ou soit donné aux pigeons, tout simplement, peut-être en réparation.
Non, parce que vous oubliez l'excellent entretien avec Nicolas Vial, on ne nourrit les pigeons qu'avec des graines, donc ce serait criminel que d'essayer de leur changer leur régime alimentaire. Est-ce que vous-même, vous me paraissez être un bon candidat à l'euthanasie citoyenne volontaire.
Alors ça, j'appelle ça une menace de mort sur un subordonné. Je trouve ça un petit peu...
On n'a pas idée de vouloir nourrir les pigeons avec du foie, enfin.
Non, mais en l'occurrence, je trouve que c'est peut-être une manière de concilier écologie et progrès.
Eh bien, et voilà. Pour une écologie de progrès. Merci beaucoup, Alexandre de Galzon. Et j'en profite pour vous dire au revoir à ceux qui nous suivent sur YouTube et sur X. Évidemment, on ne se quitte pas sans vous expliquer que vous êtes vraiment très nombreux à nous écouter chaque semaine. 1,5 million, tout canon confondu. Et donc, c'est parfait. On est très contents de ces excellentes audiences. On est un peu moins ravis du nombre de gens qui nous soutiennent. Voilà, vous êtes 2%, donc c'est pas lourd.
Oui.
Donc, si jamais vous avez envie de nous aider à passer à 3%, ça ne vous coûtera rien. Même, ça vous rapportera de l'argent. Et promis, on ne nourrira aucun pigeon avec ce que vous nous donnerez.
C'est le général Gallois qui qualifiait les gens qui écoutaient Radio Courtoisie sans cotiser, il les qualifiait de resquilleurs. Je trouve le mot assez sympathique. Donc si vous ne voulez pas faire partie de ces resquilleurs, faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis adressez-nous vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous comptons sur vous, c'est très important.
Merci beaucoup Arnaud, et tout de suite le sujet de ce matin avec André Rouget qui nous parle du rejet du projet de réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ligne droite. Debout les Français.
Bonjour monsieur le député.
Bonjour monsieur de Cèze, bonjour à tous vos auditeurs.
Voilà, je rappelle que vous êtes André Rouget, eurodéputé, et que vous suivez depuis longtemps tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et notamment la manière dont la France essaye, année après année, soit de garder la Nouvelle-Calédonie, soit au contraire de la larguer. Et effectivement, avec Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, on a l'impression, et même Sébastien Lecornu, on a l'impression que la France se dépêchait de proposer des accords baroques comme celui de Bougival, où on crée une espèce de Nouvelle-Calédonie indépendante à l'intérieur de la République française, quelque chose de tout à fait surprenant. Hier, les députés votaient sur un nouveau cadre, un projet de réforme constitutionnelle. Et en fait, une motion de censure a été déposée, adoptée. C'est le Rassemblement national et LFI avaient déjà expliqué, si je ne m'abuse, qu'ils voteraient cette motion de censure. Et ce qui fait que le projet de révision constitutionnelle n'a même pas été discuté. Il a été rejeté d'emblée à l'Assemblée nationale.
190-107. Savez-vous de ce que je suis en train d'évoquer? J'imagine que vous l'aurez compris. C'est le scrutin qui a été celui de la motion de rejet votée hier matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. 190 voix pour cette motion de rejet, votée à la fois par le Rassemblement national, par le groupe d'Éric Ciotti UDR, par le groupe des indépendants Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, par le groupe PS, par le groupe des écologistes et par le groupe effectivement de LFI. Les seuls à avoir voté contre cette motion de rejet sont les nombreux groupes de la majorité présidentielle que sont Horizon, les démocrates, le Modem, Ensemble, Renaissance, En Marche, les Républicains, enfin on ne sait même plus comment il s'appelle, tant ils sont nombreux. Mais voilà, le bilan, il est celui-là que la majorité des groupes a considéré que ce texte n'était pas un bon texte. Il avait déjà été rejeté en commission des lois la semaine dernière et il a été définitivement rejeté par l'Assemblée nationale hier matin avec le scrutin que je vous ai détaillé à l'instant.
Alors évidemment, Sébastien Lecornu a expliqué qu'il n'était pas content, qu'on avait refusé le débat, comme si ces sujets n'étaient pas déjà discutés depuis longtemps, indépendamment du vote. Que faut-il penser de ce rejet ? Car on a des raisons très différentes qui sont avancées, évidemment, par les troupes du Rassemblement national et par celles de LFI.
Des raisons diamétralement opposées. Alors, vous me dites que le Sébastien Lecornu n'est pas content, et on le comprend, il porte une lourde responsabilité lui-même dans le destin de la Nouvelle-Calédonie. Il faut rappeler que Sébastien Lecornu a été un des pires ministres de l'Outre-mer de la Ve République et qu'il est à l'origine de ce désastre parlementaire auquel nous avons assisté hier. Les accords de Matignon votés à la suite de la catastrophe de la grotte d'Ouvéa en 1988, puis l'accord de Nouméa voté à l'initiative de Lionel Jospin en 1998, prévoyait trois référendums. Le deuxième référendum a été voté en 2018 et en 2021, en plein pendant l'épidémie de la Covid, Sébastien Lecornu a tenu à faire se dérouler le troisième référendum.
Alors, ce troisième référendum qui a d'ailleurs confirmé les résultats des deux autres, c'est-à-dire que...
Qui a confirmé les résultats des deux autres, à savoir non à l'indépendance... Mais il faut savoir qu'en Calédonie, il y a des citoyens français d'une grande diversité, des citoyens français d'origine européenne, des citoyens français d'origine wallisienne, puisque les citoyens de Wallis et Futuna sont paradoxalement plus nombreux sur le territoire calédonien qu'à Wallis et Futuna, des citoyens d'origine asiatique, d'origine antillaise, de toutes sortes d'origines, et des citoyens d'origine mélanésienne qui sont les Calédoniens de souche. Et il se trouve que ces Français d'origine mélanésienne, ils ont une culture qui leur est propre, des coutumes qui leur sont propres, qui constituent d'ailleurs une grande valeur ajoutée à notre patrimoine. Et ils ont demandé à Sébastien Lecornu un délai de six mois pour reporter la date du référendum, de façon à ce qu'il puisse respecter le deuil des victimes décédées de la Covid pendant l'épidémie. Sébastien Lecornu a refusé, ce qui a constitué une première erreur, pour ne pas dire une faute. Quelque temps plus tard, c'est Gérald Darmanin qui avait récupéré le portefeuille de l'Intérieur et de l'Outre-mer, qui a fait une deuxième erreur en faisant intégrer le gouvernement à Madame Baquès, présidence de la province sud, et cela en transgressant le principe de neutralité de l'État. Et bien sûr, faire entrer au gouvernement une élue locale loyaliste, ça a été interprété comme... Ça a été vu comme un chiffon rouge par la partie adverse. Et troisième erreur, ça a été la volonté de passer en force le dégel du corps électoral, dont ce texte qui serait pourtant légitime, mais qui a été présenté devant l'Assemblée à un mauvais moment. Il aurait fallu le présenter non pas à la veille d'élections provinciales qui se profilaient à l'horizon. Le résultat, on le connaît. Ce sont ces 15 personnes décédées lors d'affrontements et plus de la centaine de Calédoniens décédés de manque de soins, les dialysés, ceux qui ne voyaient pas, qui n'ont pas pu aller aux urgences, etc. C'est plus d'une centaine. Et à la suite de ça, le gouvernement a voulu une issue statutaire et institutionnelle, et c'est Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Outre-mer, qui est à l'origine de ce texte de Bougival. Un texte, il faut le dire clairement, qui amenait la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. Il y a une excellente tribune qui a été publiée dans le Figaro il y a quelque temps, rédigée par un juriste du nom de Stéphane Diemer, qui expliquait que cette procédure était analogue à celle qu'ont connue l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française dans les années 60 et qui a vu que 2 ou 3 ans plus tard, elles avaient accédé à l'indépendance. Eh bien, c'était le même schéma pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà pourquoi nous nous sommes opposés de toutes nos forces à ce texte pour garder ce bout de terre de France dans le Pacifique Sud. Alors, je l'ai dit, pour des raisons diamétralement opposées, les indépendantistes et LFI ont voté la motion de rejet parce que eux considèrent que cela n'allait pas suffisamment rapidement. Ils veulent accéder à l'indépendance immédiatement. Nous nous y sommes opposés parce que nous nous opposions au transfert des compétences régaliennes que sont la sécurité, la défense, la justice, les affaires étrangères et la monnaie. Et une fois que ces transferts auraient été opérés, la France et la Nouvelle-Calédonie n'auraient plus qu'à constater leur divorce et il ne serait resté de la Nouvelle-Calédonie française absolument rien, trois fois rien, si ce n'est que des souvenirs.
Alors, vous avez voulu au Rassemblement national que la Nouvelle-Calédonie reste française. Ce n'est pas juste une question d'acharnement à vouloir garder un territoire, c'est aussi des richesses naturelles qui sont importantes, c'est aussi une présence qui permet d'avoir une zone d'exclusivité maritime qui est importante. Autrement dit, c'est le rayonnement de la France, c'est l'indépendance de la France, c'est sa souveraineté qui sont en jeu. Et c'est surtout une question démocratique, parce que vous avez parlé tout à l'heure rapidement du dégel du corps électoral. L'un des enjeux des lois qui sont en train d'être discutées et de cette révision, de cette réforme constitutionnelle, c'est de faire en sorte d'accorder ou non au corps électoral véritablement représentatif de ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie le droit de voter, et les indépendantistes sont contre le fait qu'on puisse élargir le corps électoral à tous ceux qui, en fait, ont déjà fait savoir leur intention de rester français, non pas de devenir indépendants. Donc là, LFI et le FLNKS, c'est-à-dire les indépendantistes et les traîtres à la France, sont en train de refuser que le peuple puisse véritablement s'exprimer, alors que le Rassemblement national veut, lui, au contraire, donner toutes ses chances aux patriotes.
Pour répondre dans l'ordre à ce que vous venez d'évoquer, effectivement, ce n'est pas que l'acharnement de la défense d'un bout de terre de France à 16 000 km de Paris qui est légitime, quelle que soit la terre de France et où qu'elle soit, elle mérite d'être défendue bec et ongles jusqu'au bout. Mais il faut bien prendre en considération que le territoire de Nouvelle-Calédonie est un emplacement géostratégique majeur. J'invite tous vos auditeurs à regarder une carte. Et sur cette carte, ils verront que la Nouvelle-Calédonie est le dernier maillon d'un chapelet d'archipel allant de de l'Indonésie à la Nouvelle-Calédonie, comprenant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Vanuatu, anciennement Nouvelles Hébrides. Et ce chapelet d'archipel n'est pas neutre géostratégiquement, puisqu'il sépare la mer de Chine de la mer de Corail qui vient s'échouer sur les rivages de l'Australie. Donc, imaginez ce que ça représente pour la Chine qui est en embuscade dans cette zone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez dit, ce territoire recèle des richesses minières, puisqu'il comprend 25 à 30% des réserves mondiales de nickel, matériaux indispensables à la fabrication des batteries électriques, et recèle au sein de ses fonds marins et sous-marins des terres rares et des nodules polymétalliques dont l'étude et l'exploitation n'ont pas encore commencé. Vous imaginez bien que la Chine fait tout pour mettre la main sur ce territoire. Et j'ajoute, comme vous l'avez évoqué, que grâce à nos départements, régions, collectivités et territoires d'outre-mer, la France est à la tête de 11 millions de kilomètres carrés d'un domaine maritime, de zone économique exclusive, qui est le deuxième domaine maritime mondial. Ce qui nous permet d'être une puissance maritime majeure. Et sur l'aspect... Pardon, je vous interromps.
Non, je vous en prie, c'était juste... Il nous reste une minute, donc je vous en prie.
Sur l'aspect du dégel du corps électoral, il est bien évident que ça constitue un déni démocratique absolu. Maintenant, il faut revenir dessus, mais de la façon la plus consensuelle qui soit, que ce soit en accord avec toutes les forces politiques représentatives du territoire. Et ne pas le faire comme l'a fait le gouvernement, avec la volonté de passer en force, parce qu'on s'aperçoit que les élections doivent avoir lieu dans un mois et demi, et que si le corps électoral n'est pas dégelé, eh bien les pseudo-loyalistes en place depuis 7 ans et demi et qui trouvent que la cantine est bonne, pensent qu'ils risquent de ne pas être réélus. Donc, avec le vote de cette motion de rejet, logiquement, les élections provinciales devraient se tenir avant la fin du mois de juin. On sortira une nouvelle majorité d'élus qui auront une nouvelle légitimité autre que celle de ceux qui sont en place depuis maintenant 7 ans et demi.
Merci beaucoup André Rouget et bien sûr nous suivrons ce combat pour la Nouvelle-Calédonie française. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout dans cette émission. Et évidemment, on vous l'a dit à plusieurs reprises, vous êtes très nombreux à nous écouter. Vous pourriez être un peu plus nombreux à nous soutenir et Arnaud a une idée excellente.
Alors l'idée, c'est de vous rendre par exemple sur cette adresse soutenir.rc.fr quand vous êtes derrière votre ordinateur et nous faire un don en ligne. Et puis également, nous envoyer vos chèques à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris.
Ce qui nous permet d'avoir cette émission, mais aussi toutes les autres. Nous émettons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Et en particulier tout à l'heure à midi, Tout est politique, dirigé en direct par Thomas Gabriel, consacré au nouvel ordre mondial, déclin et renouveau. À 17h30, Restons courtois, dirigé en direct ce soir par Marc Baudrier, à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Et puis à 19h30, toujours en direct, le libre journal des artisans dirigé par Benoît Aglon, souliers, tenues, le retour de l'élégance classique. Et puis enfin ce soir à 23h, Chant grégorien, une émission proposée par Patrick Banken.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Lundi, c'est lundi de Pâques. Il y aura une émission spéciale de Ligne Droite avec des extraits des meilleurs entretiens depuis le début de l'année mélangés avec ceux de Restons Courtois. Et nous nous retrouverons mardi.
Très bon week-end de Pâques à tous.